Je vais vous inviter à ouvrir la Bible dans un chapitre. Vous allez trouver vous-même la référence. Chapitre qu'on a surnommé le chapitre de la foi. Hébreux 11. Tout le monde est d'accord? Alors c'est ça. Hébreux chapitre 11. C'est intéressant de s'attarder sur ce chapitre. Alors, je réfléchissais à ces choses parce que lundi dernier, on était au rassemblement de jeunesse sur Albi, avec tous les jeunes de la région, et je parlais avec un frère qui allait animer l'atelier Bible et science. Et c'était l'atelier où il y avait le plus de jeunes. Tout le monde, tous les jeunes voulaient aller à l'atelier Bible et science. Je sais pas s'il y en a de moi ça qui sont allés à cet atelier. En tout cas, c'est sûrement que c'était très intéressant. Moi, j'étais sur un autre, donc j'ai pas pu entendre ce qu'il a été dit. Mais en discutant avant ces ateliers, on est arrivé avec le frère à la conclusion qu'on ne pourrait jamais avoir de preuves scientifiques de l'existence de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Mais pourquoi? Parce que si on a une preuve scientifique de l'existence de Dieu, on n'a plus besoin de la foi. Or, la Bible tout entière, du début jusqu'à la fin, nous parle de la foi, nous parle de cette relation que Dieu veut mettre en place entre l'homme et lui. Et donc, Dieu ne veut pas que nous le découvrions derrière une formule aussi compliquée soit-elle, Dieu veut que nous le découvrions dans notre cœur, avec un attachement, avec une communion, une relation personnelle. Et c'est ça la foi. Et ce matin, je voudrais vraiment qu'on attire notre attention sur le sujet de la foi, qu'on décrypte un petit peu, qu'on décortique la foi pour savoir ce que le Seigneur attend de nous. Parfois, on se met des visions compliquées. Justement, on essaye, dans notre témoignage, parfois on essaye de convaincre. On essaye d'argumenter pour que les gens croient, alors que le Seigneur voudrait juste qu'on soit des témoins, de partager ce qu'on a vécu par la foi en lui. Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Il m'a touché, il m'a guéri, il m'a transformé, il a intervenu dans telle situation, il a ouvert une porte alors que tout était fermé. Ça, c'est le témoignage que le Seigneur voudrait qu'on rende de lui. Essayer d'argumenter, c'est bien, ça peut à certains moments servir. Mais le plus important, c'est la foi. Et dans le chapitre 11 des Hébreux, on trouve plusieurs définitions de la foi. Alors la première, c'est la plus simple, c'est le verset premier. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et le verset 2, « Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Est-ce que parce qu'une chose n'est pas visible, elle n'existe pas? N'est-ce pas, Marink? Tu es bien placé pour le savoir. Mais c'est une réalité, mais parfois on a cette fausse réflexion de se dire bah, « de toute façon, je ne vois rien, donc ça n'existe pas ». Alors ça, c'est plus pour ceux qui ont la vue qui marche, ils peuvent réfléchir comme ça. Marink, elle n'a pas ce problème. Mais vous savez, quand j'étais en classe prépa, dans les études, il y avait une coutume qui existait. C'était de réserver un des coins du tableau. Vous savez, on avait les tableaux noirs. Et un coin du tableau, il y avait un petit carré dedans. Et tous les matins, quand on avait cours, il y avait un des étudiants qui venait écrire au tableau. C'était réservé aux élèves, ce coin-là. Et c'était pour marquer le décompte des vacances. Combien de jours est resté jusqu'aux vacances? Parce que je peux vous dire que quand vous étudiez, vous voyez au tableau des formules complexes de mathématiques et autres charabia. Quand les cerveaux commencent à surchauffer, à un moment donné, vous regardez dans le coin du tableau et vous respirez un petit peu en disant « Ah, bientôt les vacances !» Vous voyez le chiffre qui décroît au fur et à mesure. Vous êtes rassuré. Bon, ça dure qu'un instant, hein, parce qu'après il faut s'y remettre. Mais est-ce que les vacances n'existent pas parce qu'elles ne sont pas là encore? Vous avez déjà réfléchi à ça? Les vacances n'existent pas parce qu'elles vont arriver, quoi. Mais elles n'existent pas en soi. Elles n'existent que quand j'y suis dans les vacances. Sinon, ce n'est qu'une espérance. Et pourquoi est-ce que nous avons l'espérance des vacances? Pourquoi les étudiants ont l'espérance des vacances? Parce que il y a un décret ministériel qui a été sorti à un moment donné qui dit « Voilà le calendrier des vacances ». C'est comme ça que ça marche. Le calendrier scolaire. Bon, et entre autres des vacances. Mais vous savez que ça demande de la foi. C'est la foi, en fait. Alors, c'est la foi dans le calendrier scolaire. Mais c'est de la foi. Des fois, on croit que la foi, c'est quelque chose de très compliqué, alors que c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours. Sauf que c'est dans des domaines pas forcément spirituels. Mais est-ce que nous n'avons pas reçu un parfait programme de toute la vie sur Terre, hein, que nous avons entre nos mains, dans lequel nous pouvons mettre notre foi et qui nous donne de l'espérance? Est-ce que la parole de Dieu n'a pas cette puissance-là de nous donner de l'espérance pour des choses que l'on ne voit pas encore, que l'on n'arrive pas à discerner encore parfaitement, mais qu'on sait qu'elles existent parce que Dieu l'a dit dans sa parole? Et c'est aussi simple que ça. Quand je lis la Bible, il y a de l'espérance. La foi, c'est une ferme espérance des choses que l'on espère. Nous, on espérait après les vacances, mais quand on est croyant, on a cette espérance qu'un jour, on sera dans le repos éternel. Et ça nous donne de supporter la complexité, la difficulté et les épreuves de notre monde d'aujourd'hui. Quand je considère ce que sera demain avec le Seigneur, ça me donne une force pour affronter le quotidien. Ça, c'est ce que le Seigneur nous invite à croire. La foi, c'est cette ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, au verset 6, il est dit « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » C'est-à-dire qu'il est celui qui récompense, celui qui donne quelque chose à celui qui le cherche. Quand on cherche Dieu, on n'est jamais déficitaire. Quand on abandonne, quand on renonce à certaines choses pour Dieu, c'est jamais pour avoir un solde négatif. On est toujours bénéficiaire parce que on a toutes les promesses de Dieu qui sont devant nous et le Seigneur nous invite pas seulement on croit à son existence, parce que beaucoup de gens dans le monde croient à l'existence de Dieu ou d'une force supérieure, mais il veut aussi qu'on soit de ceux qui le cherchent. De ceux qui le cherchent, pas par intérêt, mais parce que on l'aime et on sait que quand on cherche Dieu, de toute façon, il nous bénit. C'est comme ça que ça marche avec le Seigneur. La foi, c'est cette capacité de regarder les choses qui sont invisibles. Il est dit de Moïse dans le verset 27, la deuxième partie, il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Quand on a la capacité de voir l'invisible, les choses que la Bible nous décrit mais que l'on ne voit pas de nos yeux, eh bien, c'est ça la foi. Il y a cet acronyme que j'aime beaucoup, c'est la foi, c'est une force qui ouvre l'impossible. Et c'est une force qui observe l'invisible. Deux acronymes d'ailleurs, qui parlent de la foi. Et qui nous invite à croire et à comprendre ce qu'est la foi. Alors ce matin, je voudrais qu'on insiste dans ce chapitre 11, et on va prendre aussi quelques versets dans le chapitre 12, qu'on insiste sur cette réalité que la foi, c'est une nouvelle vision de la vie. Quand on arrive à la foi, quand on découvre la vie avec le Seigneur, on voit les choses totalement différemment. Est-ce que vous vous souvenez, pour vous qui avez décidé de marcher avec Jésus, qui avez demandé pardon pour votre péché, qui avez été pardonné, libéré de votre passé, est-ce que vous vous souvenez comment vous avez vu les choses à partir de ce moment-là? C'était totalement différent. C'était les mêmes personnes que vous regardiez, mais c'était pas du tout la façon de voir. Moi, je me souviens quand j'ai vécu ça et que j'ai relu la Bible, alors que je l'avais lu bien gentiment, avec diligence, parce que mes parents m'avaient appris de la lire tous les jours. Quand je l'ai lu, mais que la foi était là dans mon cœur, ben c'était plus le même livre. Hein. Avant, c'était un livre qui était très long, beaucoup de pages, écrit tout petit. Mais après, quand je l'ai lu, j'ai trouvé qu'on pouvait jamais s'arrêter. Pendant des soirées, je lisais des chapitres, des lettres entières de la parole de Dieu parce que ça faisait du bien, ça me parlait. Parce qu'il y avait la foi. Lisez la Bible sans la foi, ça va être compliqué. Mais lisez la Bible avec la foi, avec l'attente que c'est Dieu qui est en train de vous parler et qui veut vous bénir. Et vous allez voir que ça change tout. Et moi j'ai dit, à un moment donné dans ma vie, j'ai dit « Seigneur, je suis en train de lire ta parole mais je ne comprends rien ». J'ai dit ça comme ça, hein. Le Seigneur a l'habitude avec moi. Je lui parle direct. Je comprends rien, mais viens m'éclairer. Mais quand j'ai fait cette prière, à l'instant même, le Seigneur m'a chamboulé et a ouvert mes yeux. Pourtant, ils étaient ouverts déjà, mais il y a quelque chose qui s'est débloqué dans mon cœur pour que je comprenne sa parole. La foi, c'est cette ferme assurance. C'est cette force qui observe l'invisible. Et on a parfois besoin de réaliser que la foi, c'est la vision du meilleur. Alors on va lire le verset 39. Regardez, comme quoi la foi, c'est la vision du meilleur. Tout cela, alors c'est tous les héros de la foi qui viennent d'être cités, tout cela à la fois desquels il a été rendu témoignage. Ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur, pour qui ? Pour nous. Pas pour les héros de la foi seulement, mais pour nous. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Amen. Vous avez déjà réalisé que si Dieu avait accompli toutes les promesses qu'il a faites aux prophètes, aux héros de la foi de l'Ancien Testament, mais on serait peut-être pas là ce matin pour découvrir la foi, pour découvrir la présence de Dieu. Peut-être qu'on ne serait même pas venu dans ce monde, parce que si toutes les promesses étaient déjà accomplies, Jésus serait déjà revenu sur la terre, ça serait déjà le millénium. Est-ce que on aurait vécu là-dedans ou pas? Ça, je sais pas trop comment ça fonctionne. Ce que je sais, c'est que Dieu a voulu faire des promesses à ces héros de la foi, mais accomplir ces promesses en prenant le temps pour que le maximum dont nous faisons partie, on puisse en bénéficier aussi. Est-ce que c'est pas merveilleux? Qui est reconnaissant ce matin d'avoir goûté un jour à la grâce de Dieu? On est d'accord? Et d'y goûter en plus tous les jours. C'est un jour, mais c'est que le début, parce que c'est tous les jours qu'on goûte à la grâce de Dieu, à sa présence, à son amour. Mais si Dieu avait fait les choses autrement, peut-être qu'on ne serait même pas là. Sauf qu'il les a fait comme ça pour qu'on puisse goûter, nous, au meilleur. Dieu avait en vue, Dieu regardait quelque chose de meilleur. Vous avez déjà réfléchi aussi que Dieu, il a cette capacité de regarder les choses de manière globale. Nous, on regarde les choses de notre point de vue à nous, dans notre situation à nous, avec nos sentiments, avec les circonstances qui sont les nôtres. Et c'est normal, on est créé comme ça, on est limité. Mais Dieu, lui, voit les choses avec beaucoup de recul. Ben, il voit les choses déjà depuis le début de la création jusqu'à la fin du monde. Il voit tout. Nous, on voit que la petite portion de temps qu'on est en train de vivre en ce moment. Des fois, on essaye de se projeter un peu sur le futur, mais on a du mal. Un jour, il y avait un pilote d'avion de loisir, donc il se promenait dans le ciel. Et puis il survolait une route sinueuse, une route qui montait, et il voyait une voiture qui avait vraiment du mal à monter, il était dans son cockpit, mais il sentait que la personne, elle n'était pas rassurée en train de monter cette route. Il y avait des virages serrés, il y avait des endroits où il n'y avait pas forcément de barrière, et donc il sentait que cette voiture-là prenait son temps, et il voyait surtout qu'il y avait un embouteillage qui commençait à se créer, parce qu'elle allait très 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 doucement. Or, parfois, elle aurait pu aller très vite, et lui, de son cockpit, il voyait tout, il voyait la route, il voyait les tournants, et il se disait, mais tiens, ça aurait été bien si j'avais un moyen de téléphoner et de lui dire, mais tiens, là, tu peux accélérer parce qu'il n'y a aucune voiture qui arrive, t'inquiète pas, là, fais attention, il y a un virage, fais attention, il y a telle ou telle chose, tel danger. Vous avez déjà réfléchi que Dieu, lui, il est dans cette position-là? Il est dans son ciel et il voit tout de manière globale. Nous, on est là, on s'inquiète parce qu'on a l'impression que peut-être qu'il n'y a pas de route qui va suivre. On a l'impression que c'est fini après, mais Dieu voit que c'est un virage simplement. Un virage très serré, mais un virage. Et il veut, lui. Et il a le moyen de nous influencer, de nous dire, de communiquer avec nous pour nous informer de la suite du programme dans chacune de nos vies. Il voit le meilleur, il sait ce qui est le meilleur, et nous avons besoin de réaliser que la foi, c'est de faire confiance à Dieu parce que lui voit le meilleur. Le meilleur regard, la meilleure vision que l'on peut avoir, c'est de se confier dans le Seigneur, parce qu'on sait que lui, il maîtrise tout. Il maîtrise, et j'aime le dire, je trouve que c'est une caractéristique merveilleuse du Seigneur. Il est le maître des temps et des circonstances. Qui est maître de son temps? Qui peut dire, moi je maîtrise mon temps parfaitement la seconde près? On a tous quelque chose, des fois, qui nous mange du temps. Ou alors, on en est pas mal organisé, mais les choses ne se déroulent pas comme on voudrait. Parce qu'on n'est pas maître. Mais Dieu, lui, est le maître des temps et des circonstances. Il y a des circonstances qui nous échappent. Il y a des circonstances même qui semblent nous maîtriser, mais lui, Dieu est le maître, et nous avons besoin de nous confier, d'avoir cette foi pour le meilleur, parce que lui veut le meilleur pour nous. Et nous avons besoin de réaliser que Dieu veut le meilleur pour nous. Le meilleur pour nous ne veut pas dire aucune embûche, aucune difficulté. Le meilleur pour nous, ça veut dire le meilleur moyen de grandir avec lui et d'avoir une foi forte dans sa présence. La vision du meilleur d'une part et la vision aussi de valeurs les plus importantes. La foi, c'est la vision des valeurs, c'est regarder à ce qui a de la valeur, à regarder à ce qui a vraiment de la valeur, on pourrait dire ça comme ça. Cette faculté d'attirer l'attention sur ce qui est le plus important dans nos vies. Qu'est-ce que vous considérez comme le plus important dans vos vies? Ça, c'est une question que je vous lance, je ne vous demande pas de me répondre, hein, mais de réfléchir. Qu'est-ce que pour vous, c'est le plus important? Qu'est-ce qui doit avoir le plus de place? Comment est-ce qu'on peut trouver les choses qui sont les plus importantes? Regardez le verset 1er du chapitre 12, c'est la suite donc de ce qu'on vient de dire. Nous donc aussi, nous sommes environnés d'une si grande, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. On s'arrête là, on lira la suite tout à l'heure. Nous donc qui sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Ben oui, les témoins, c'est ceux qui viennent d'être cités. Vous avez vu, ça prend tout un chapitre de la Bible. Et encore, à un moment donné, l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de dire le temps me manque pour parler des uns des autres, pour parler de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel. Le temps me manque parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Le temps ne nous manque pas à nous pour lire ce qui s'est passé pour eux. Hein. Ça, c'est notre lecture quotidienne qui nous amène à connaître ces passages-là. Mais nous sommes, et c'est une réalité, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Vous avez déjà été dans la rue et puis à un moment donné, vous voyez que tout le monde est en train de regarder vers le haut, ou vers un endroit, donc tout le monde regarde comme ça. Donc qu'est-ce que vous faites? Ben, vous regardez aussi, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est exactement ça, la nuée de témoins, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils regardent? Pourquoi est-ce qu'ils sont dans le chapitre de la foi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de regarder? Qu'est-ce qui a de la valeur pour eux? Si je regarde vers là où ils regardent, ben je vais comprendre ce qui a de la valeur. Ce qui fait qu'ils sont devenus des héros de la foi. Dieu veut le meilleur pour nous, Dieu veut que nous devenions aussi des héros de la foi. Les héros de la foi, ce ne sont pas forcément ceux qui sont sur tous les journaux, sur tous les réseaux sociaux, qui ont des milliers d'abonnés, c'est pas ça hein, les héros de la foi. Les héros de la foi, c'est ceux qui, devant Dieu, marchent avec vérité, authenticité, simplicité, humilité et qui, pas après pas, font confiance à leur Seigneur. Alors, regardons quelques exemples dans le chapitre 11, il n'en manque pas. Regardez le verset 5. « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » Dieu dit, il ne veut pas qu'Enoch voie la mort. Vous allez remarquer à chaque fois qu'il y a une vérité entre la foi et ce que les personnes regardent, la vision qu'ils ont. Cet homme, Dieu a décidé qu'il ne verrait pas la mort, mais parce que lui, il avait la vision d'autre chose dans sa vie. Il avait reçu le témoignage qu'il était favorable à Dieu. Ça veut dire que cet homme avait la vision, avait compris qu'une valeur importante, c'est de regarder à ce qui est agréable à Dieu. Il y a des choses qui nous sont agréables, on a le droit, mais il y a des choses qui sont agréables à Dieu. Et ça, on n'a pas le droit de traiter comme une option, parce que c'est le plus important. Cet homme a été déclaré être quelqu'un qui est agréable à Dieu. Vous n'aimeriez pas que c'est ce témoignage qui soit rendu de vous, quelque part? Je crois qu'il y a un livre dans le ciel où Dieu est en train d'écrire la suite de la Bible. Il est en train d'écrire ce que nous faisons, les œuvres que nous faisons en son nom, pour honorer son nom, et c'est un témoignage qui peut-être lui est agréable. Ou alors il est en train peut-être de chercher une situation pour que la personne se remette en question, parce que pour l'instant, elle ne fait pas ce qui lui est agréable. Cet homme a été pris, enlevé, c'est l'image de ceux qui seront enlevés un jour, parce qu'il a été agréable à Dieu. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors, je pourrais prendre le temps ce matin de fouiller toute la parole pour vous montrer plein d'exemples des choses qui plaisent à Dieu. Mais juste ça nous montre déjà ce qu'est la foi. Chercher à plaire à Dieu. Chercher à faire ce qui plaît à Dieu. C'est ça la foi. Regardez Noé au verset 7. Je vous donne juste des pistes ce matin. Je vous invite à à réfléchir personnellement. Regardez Noé. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Sur quoi Noé avait-il ses regards? Pour que pendant presque 100 ans, il construise un bateau au milieu de la campagne, alors qu'il n'y avait pas d'eau? Sur quoi est-ce qu'il avait les regards? Alors que les gens autour de lui se moquaient parce qu'ils le prenaient pour un fou, alors que sa famille, bon, le suivait, mais peut-être se posait des questions, mais est-ce que notre père est, il est vraiment proche de Dieu, ou est-ce qu'il radote? Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, ils lui ont fait confiance quand même. Qu'est-ce qui a fait que Noé a construit ce bateau et a tenu bon malgré tout? Sur quoi avait-il les regards? Mais il s'est simplement dit, il a été divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Est-ce que vous aimez les avertissements divins? On aime les bénédictions, on aime les bonnes paroles de Dieu, mais les avertissements, on n'aime pas toujours. Sauf que quand Dieu nous donne des avertissements, c'est pour notre bénédiction. La preuve, Noé, c'était l'avertissement. Attention, il va tomber sur le monde le jugement. Est-ce que vous savez que Dieu avait prévenu, Dieu avait anticipé, la grâce de Dieu avait fait qu'il avait déjà annoncé ces choses des centaines d'années avant? Est-ce que vous le savez ça? Quand un monsieur, alors je crois que c'est l'arrière-grand-père de Noé, a eu un enfant qui s'appelait Mathusalem. Ça vous parle, Mathusalem? On dit vieux comme Mathusalem, d'accord? Parce que c'est celui, selon la parole de Dieu, qui a vécu, l'homme qui a vécu le plus longtemps sur Terre, 969 ans. C'est pas mal, hein? La retraite, elle a dû durer un moment, là. Il en a profité. En tout cas, Mathusalem, savez-vous ce que veut dire son nom? Moi, j'ai compris un jour pourquoi est-ce que cet homme, c'était lui qui avait vécu le plus longtemps. Son nom veut dire, à sa mort, il y aura un jugement. Et vous savez quand c'est qu'il est mort? L'année du déluge. Ça veut dire pendant 969 ans, Dieu avait dit déjà aux gens, à toute l'humanité qui était là, à la mort de cet homme, il y a quelque chose qui va se passer. Donc, ça veut dire en gros, préparez-vous. Sauf que certains n'ont pas écouté, ont méprisé. Mais Dieu, des fois on dit, mais Dieu permet le mal, c'est pas juste, etc. Mais Dieu lance toujours un appel, et souvent on s'en rend pas compte, mais ça fait des siècles et des siècles que Dieu lance l'appel pour nous bénir, pour nous secourir, parce qu'il sait aussi qu'il y a un jugement, il nous avertit, mais il nous avertit pour qu'on échappe au jugement. L'arche a été enlevée des eaux, les eaux sont venues juger ceux qui étaient là et qui n'ont pas cru, mais l'arche a été la bénédiction pour ceux qui ont mis leur foi. Et Noé a trouvé important d'écouter les avertissements de Dieu. Il a eu ce regard sur les avertissements de Dieu qui ont fait qu'il a été préservé, et lui et sa famille. Ça m'intéresse aussi. Je veux que ma famille soit au Seigneur. Alors je veux prendre soin des avertissements. Il a eu aussi cette crainte respectueuse. Vous savez que la crainte, c'est simplement réaliser que dans tout ce que nous faisons, ben Dieu est là, il nous voit. Quand j'ai la crainte de Dieu, c'est ça. Je sais que Dieu est là ce matin, dans le rassemblement des frères et sœurs, mais Dieu est là quand je suis au travail. Dieu est là quand je suis à la maison. Dieu est là quand je suis avec les collègues. Dieu est là quand je suis tout seul. Dieu est là. Dieu est partout. Dieu est là dans la voiture. Et j'agis en conséquence. C'est ça la crainte de Dieu. J'agis avec cette réalité que Dieu est là. Regardez le verset 13. On ne lit pas toute l'histoire, vous connaissez, c'est Abraham et Sarah. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues de loin, crues et saluées, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. C'est par la foi qu'ils sont morts, sans avoir obtenu les promesses, les choses promises. Abraham et Sarah se sont appuyés sur les promesses de Dieu. On en a parlé au travers des chants, dans les louanges, j'ai entendu aussi ces paroles, comme quoi on aime les promesses et on a raison d'aimer les promesses. Et ça, c'est une valeur que de fonder notre foi sur les promesses de la parole de Dieu. Je crois que c'est Pierre qui nous parle des plus grandes et des plus merveilleuses promesses. C'est comme ça que vous les voyez? Plus grande et plus merveilleuse promesse. Ce que Dieu a écrit dans sa parole, c'est la vérité. Et quand il l'écrit et que je l'ai entre les mains, c'est pour que j'ai conscience que c'est pour moi. Une dame qui fréquentait les églises depuis plusieurs années, à un moment donné, elle a préféré arrêter. Mais elle n'a pas totalement abandonné, elle a réussi à se procurer des CD de prédication, et elle écoutait de temps en temps les CD de prédication comme ça. Elle avait une communion avec Dieu, on va dire, mais ce n'était pas le top top. Elle s'est mariée avec un non-croyant qui n'était pas forcément opposé, mais n'était pas plus intéressé que ça non plus. Les années ont passé dans la vie de cette dame, et puis un jour, elle est tombée gravement malade, au point qu'elle était totalement alitée et elle n'arrivait même plus à parler. Et elle arrivait seulement à murmurer des paroles. Et puis, à un moment donné, son mari s'est approché et lui a dit: mais est-ce que tu veux que je fasse quelque chose, que j'appelle quelqu'un? Il sentait, lui, que c'était la fin, quoi. Et elle lui a dit: l'huile, l'huile. Et puis elle montrait les CD. Il a compris que c'était un rapport avec l'église, quoi. Alors lui, il avait une certaine connaissance de la religion, donc il a pensé à l'extrême-onction. Donc il a cherché sur le CD, il a trouvé le numéro d'un pasteur, c'était un pasteur de Toulouse. Et eux, ils sont dans l'Aveyron. Et donc, il a appelé le pasteur de Toulouse. Le pasteur lui dit: attendez, je vais vous donner le numéro du pasteur de Rodez. À l'époque, le pasteur de Rodez, c'était Luc Goyot. Vous connaissez? Et donc, c'est lui qui racontait cette histoire. Donc, il appelle Luc Goyot et il lui dit: voilà, ma femme m'a demandé de l'huile. Alors, lui, il était pareil, il a dit: qu'est-ce que c'est? Est-ce que s'il veut l'extrême onction pour elle? Bon, il a dit: je pense comprendre selon la parole de Dieu, voilà ce qui va se passer. Donc, il est venu avec la fiole d'huile pour faire l'onction d'huile, parce que contrairement à ce que d'autres croient, nous croyons que quand nous prions avec l'huile, c'est pour la bénédiction, le relèvement de la personne. D'accord? Et donc, il vient prier, mais ce qui s'est passé, il a dit, c'est pas toujours comme ça, mais à ce moment-là, il a prié et il a senti dans son cœur une conviction, une force que cette femme allait être guérie. Je peux vous le dire, en pratiquant avec les anciens, on a vécu la même chose. Il y a des fois, on ressent rien de particulier, à part que le fait de bénir les personnes. Mais il y a certaines fois où il y a des convictions qui se posent sur notre cœur. Et cet homme, ce pasteur, il a eu cette conviction. Il a prié et il leur a dit: attendez-vous au Seigneur, il va faire quelque chose pour vous. Sur le coup, rien ne s'est passé. Le soir, il y avait une réunion, donc il est retourné préparer la réunion et puis dans ses activités. Et le soir, arrive le moment de la réunion, il y a un monsieur qui est là, qui l'attend, c'est le mari. Le mari qui est chamboulé parce que quelques heures après la prière et l'onction d'huile, sa femme s'est levée, sa femme s'est préparée, sa femme a commencé à demander à manger, a repris des forces et puis a commencé à chambouler toute la maison. Elle a été totalement guérie quelques heures après la prière et l'onction d'huile. Parce que cette femme, c'est elle d'abord qui a reçu la conviction qu'il fallait qu'elle appelle un pasteur. Pourquoi? Pourquoi elle a eu cette idée? Ça lui est venu comme ça? Ou est-ce que c'est pas la parole de Dieu qui le dit? Si quelqu'un est malade, qu'il prie, les anciens viendront, loindront d'huile. Jacques, chapitre 5, c'est la parole de Dieu. C'est la promesse de Dieu. Alors bien sûr qu'il faut que ça soit des promesses que Dieu nous donne. C'est pas parce que je lis un verset que forcément tout de suite. C'est pour moi, Dieu doit l'appliquer à ma vie, de me montrer. Et c'est du temps dans la présence de Dieu qui me permet de vérifier tout ça. Mais les promesses de Dieu ont été données pour les enfants de Dieu. Et nous ne voulons pas être de ceux qui ont un trésor dans notre coffre-fort enfermé au fin fond de la cave, mais nous voulons être de ceux qui bénéficient du trésor des promesses de la parole de Dieu jour après jour, selon la volonté de Dieu, bien sûr. Et cet homme a été touché le soir même dans son cœur parce qu'il a vu que Dieu était un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu qui guérit. C'est pas juste des mots dans un livre, c'est une réalité. Pour ceux qui ont la foi, c'est ce que nous pouvons expérimenter. Le regard sur les promesses, ça c'est de la valeur sûre. Le regard aussi sur ce que les personnes peuvent devenir. Dans le verset 23, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Alors, dans ce verset, qui c'est qui a la foi? C'est les parents, on est d'accord, hein? C'est parce qu'on pourrait se tromper avec la formulation, c'est par la foi que Moïse. Oui, mais c'est par la foi que Moïse a été béni parce que ses parents ont eu la foi, en fait, c'est ça. Ses parents ont eu la foi. Ils étaient, vous imaginez, on vous dit, Tous les enfants en dessous de 2 ans, ils vont être mis à mort. Alors, venez les livrer. Bon, qui c'est qui obéirait à ça? On attendrait qu'ils viennent peut-être les chercher dans la maison. Bon, on barricaderait la maison, je ne sais pas ce qu'on ferait. Mais eux, ils ont dit, cet enfant-là, il y a quelque chose de spécial sur sa vie. Est-ce que les autres ne se sont pas dit la même chose? Ça, on ignore comment ça s'est passé. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que par la foi, ces personnes ont dit, cet enfant, il a quelque chose sur sa vie. Je ne regarde pas juste sa petitesse, sa force, il est faible, il ne peut rien faire. Mais Dieu veut faire quelque chose de lui. Est-ce qu'on arrive à avoir ce regard sur les gens qui nous entourent? Des fois, des personnes qui ne sont pas encore croyantes, on regarde la méchanceté, on regarde les moqueries, est-ce qu'on arrive à voir plus loin et à voir ce qu'elles peuvent devenir avec l'amour du Seigneur dans leur vie? Ça, c'est de la foi aussi. C'est pas évident, hein? Quand quelqu'un se moque de nous, de se dire, tiens, il pourrait être un excellent serviteur de Dieu. Ben regardez Paul. Avant d'être Paul, il était Saul. Hein. Il était quelqu'un qui servait à garder les habits pendant que les autres mettaient à mort un homme de Dieu. Mais il y en a un, il a dû être convaincu par le Seigneur. Ananias, il est venu prier pour lui parce que Dieu lui a montré ce qu'il pouvait devenir. Et c'est dans la présence de Dieu par la foi que Dieu nous montre ce que les gens peuvent devenir. Regardez au potentiel de la personne, pas les capacités humaines forcément, mais ce que Dieu veut faire au travers de la vie de telle ou telle personne. Il y a quelqu'un qui a dit cette phrase que j'aime beaucoup, il y a ceux qui voient les choses telles qu'elles sont et se demandent pourquoi. Pourquoi Seigneur? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et puis, il y a ceux qui voient les choses telles qu'elles pourraient être et se disent pourquoi pas. Vous voyez, c'est pas mal, j'aime bien. Et c'est comme ça que Dieu nous regarde. Dieu ne nous regarde pas en disant, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Aïe, 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 aïe. Alors, les autres, ça va, mais alors lui, je me suis trompé. Hein. Vous pensez que Dieu, il est comme ça? Heureusement qu'il ne dit pas ça. Hein. Non, non, Dieu, il dit, il est faible, il est petit, il ne sait pas faire grand-chose, mais moi, je vais le changer, je vais le transformer pour l'utiliser puissamment, pour qu'il soit une bénédiction. C'est comme ça que Dieu nous regarde. Lui, il se dit, pourquoi Seigneur, pourquoi je n'ai pas ceci, pourquoi je n'ai pas cela entre les mains? Et Dieu se dit, pourquoi pas utiliser celui-là? Qui c'est qu'il allait voir en Israël? Il allait voir le plus petit de la plus petite de plus petite tribu, Gédéon, parce qu'il avait vu ce qui pouvait devenir cet homme entre les mains de Dieu. Regardez à ceux qui ont la valeur, regardez au fait que les personnes sont précieuses devant Dieu, quelles qu'elles soient. Et Dieu peut les changer pour sa gloire. Et au verset 24, on voit aussi Moïse cette fois-ci. Moïse avait des parents pleins de foi, mais il a été, à un moment donné, touché par la grâce divine et il a eu la foi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. La foi, c'est d'être capable de regarder aux récompenses divines, malgré la difficulté que ça engendre, malgré les épreuves que cela produit. Notre foi devient précieuse par l'épreuve, nous dit l'apôtre Pierre. Mais la foi, c'est pas de regarder à l'épreuve. La foi, c'est de regarder à ce que l'on va gagner au travers de l'épreuve. La foi, c'est de s'appuyer sur la parole de Dieu et sur ses promesses. Regardez ce que Moïse a fait. Il a refusé certaines choses. Il a refusé la gloire du monde. La foi nous amène à refuser parfois, à renoncer. Pourtant, il était déclaré fils de la fille de Pharaon, donc il avait une position, un statut, il avait les papiers, tout était conforme, hein. L'adoption était pleine, parfaite. Mais quand il a compris qu'il était un enfant du peuple d'Israël, il a compris que Dieu avait d'autres projets pour lui. Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que l'on doit refuser dans nos vies? Alors, ce n'est pas moi qui vais venir vous dire, tu dois refuser ça. Ce n'est pas mon rôle. À moins que vraiment il y ait quelque chose de flagrant que Dieu me montre. Mais c'est notre rôle à chacun de se tenir devant Dieu, de dire que Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas certaines choses auxquelles je dois renoncer, refuser? Il a préféré la souffrance de la foi que la jouissance du péché. Si on vous donnait le choix, qu'est-ce que vous choisiriez? Alors, de manière raisonnée et sage, on dirait bien sûr qu'on choisit On choisit la souffrance de la foi. Mais quand on traverse la souffrance de la foi, des fois, on peut être perturbé par rapport à ça. Mais c'est toujours bon de réaliser qu'il faut lever les yeux vers le ciel et la récompense. C'est la récompense qui permet d'endurer la souffrance, en fait. Si je regarde mes yeux vers la souffrance, j'ai pas envie de souffrir. On est tous pareils. Si je regarde mes yeux vers la récompense, j'accepte de souffrir. Parce que je vois que c'est un chemin qui m'amène vers une bénédiction. Et imaginez, vous allez chez le docteur, vous devez vous faire vacciner, et vous pensez tout le chemin à la longueur de l'aiguille, vous pensez tout le chemin qu'elle va vous transpercer le bras et passer au travers, que ça va entraîner plein de microbes et tout ce que vous voulez. Franchement, est-ce que vous allez y aller? Vous n'allez même pas ouvrir la porte, vous allez faire demi-tour au rond-point et rentrer chez vous. Mais vous y allez quand même, pourquoi? Mais parce que vous savez que ça va renforcer les défenses, ça va permettre que la maladie, s'il y en a une, soit arrêtée, ou s'il y en avait une après, elle ne puisse pas venir, le vaccin. Mais si on focalise nos yeux sur la souffrance, si on regarde le docteur qui fait son action pendant qu'il nous pique, on n'a pas forcément envie de le vivre. Mais on sait que c'est un mal pour un bien. Et souvent, on regarde au mal et on ne regarde pas au bien. Le bien avec Dieu, il est tellement immense. Moïse, il a compris ça. Il a regardé vers celui qui est au-dessus. Il était prince d'Égypte, il avait tout. Il avait les dernières voitures, il avait le meilleur appartement de l'époque en forme de pyramide. Enfin, je sais pas, j'ai essayé de me faire des films. Il avait le dernier iPad en briques, tout ce que vous voulez, la technologie de l'époque. Sauf que tactile, mais il faisait rien d'autre. Hein. Mais il a compris que tout ça, c'était vain par rapport au plan de Dieu. Dieu est au-dessus. Oui, ça demande la souffrance. Passer 40 ans dans le désert, c'est pas tellement intéressant. Déjà, il a vécu ça personnellement. Déjà, quand il a fui d'Égypte, il est resté 40 ans dans le désert à garder les moutons. Mais en plus, il a refait 40 ans après. Mais il savait que ça valait tous les trésors du monde. Vous aimeriez pas vivre dans le désert, mais voir la mer s'ouvrir en deux de temps en temps, voir la manne qui tombe du ciel, la montagne qui s'embrase de feu. Enfin, je veux dire, Dieu nous demande de souffrir, oui, mais à côté, il met le paquet pour nous faire du bien. Et il a été avec Moïse. Il a utilisé Moïse. Et il a été une bénédiction. Cet homme qui a refusé à son simple niveau est devenu une bénédiction pour des centaines de milliers d'Hébreux de son temps. Ça donne envie quand même d'avoir cette foi-là qui est conséquente. Parce qu'il avait les yeux sur la récompense. Il a enduré la souffrance parce qu'il avait les yeux sur son Seigneur. Alors ayons la vision des valeurs. Et puis je voudrais terminer avec cette deuxième partie du verset. Alors, dans le verset 2, la suite du verset qu'on a lu tout à l'heure, du chapitre 12. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. D'autres versions disent celui qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Qu'est-ce qu'il a fait ce Seigneur? En vue de la joie qui lui était réservée. Vous voyez, Jésus, c'est pareil, il regardait à la joie qui lui était réservée après. Et ça lui a donné la force de subir tout ce qu'il a subi, c'est-à-dire il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie, c'est-à-dire qu'il a vécu l'ignominie, il a vécu la honte, mais il ne s'est pas laissé toucher par la honte. Il a traversé quand même. Et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a vécu ce mal-là? Afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Ça vous plaît pas ça? Bon, ça me plaît ce verset. Dieu ne veut pas que je me lasse. Dieu ne veut pas que je me décourage. Et pour que je ne puisse pas me décourager, il me donne un exemple. Son fils qui est descendu du ciel pour souffrir sur la terre, pour porter mon péché, pour porter mes souffrances, pour porter ma honte, pour porter tout ce que je peux connaître de douleur dans ma vie, afin que je ne me lasse jamais, afin que je reste toujours plein de courage, quelles que soient les circonstances. La vision que nous devons avoir, c'est aussi celle de regarder à notre Seigneur.
Paul a dit aux Corinthiens, quand nous regardons vers le Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire par l'Esprit. Quand je regarde vers le Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. Quand je regarde à l'exemple de mon Dieu, il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur. Alors, je vais vous dire, il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit j'ouvre mon cœur, je goûte à la présence de Dieu, il me transforme, il me montre des choses, je progresse, j'avance, je demande pardon, je suis pardonné. Soit je m'endurcis. C'est les deux choses. Mais on ne peut pas rester indifférent. Quand Dieu parle, personne ne peut rester indifférent. Soit je rejette la parole de Dieu, soit je saisis la parole de Dieu. Bon, Seigneur, c'est pour moi ça. Je la veux et j'y adore. Je veux que tu me changes. Alors que nous allons préparer nos cœurs à prendre ce repas ensemble, regardons, ayons les regards fixés sur Jésus. Celui qui a accepté de connaître la souffrance parce qu'il avait en vue la joie qui lui serait réservée. Et vous savez, c'est quoi sa joie? Et c'est qu'on soit un jour avec lui dans le ciel. Amen. Donc la joie, c'est pas une joie égoïste. Ah, enfin, je vais me réjouir, je serai bien là-haut dans le ciel. Non, je vais me réjouir. Il y était déjà dans le ciel. Et ça servait à rien de venir sur la terre. Si, ça servait. C'est pour nous. Parce qu'il a le meilleur pour nous. Je vais demander à Silas et à Démar, si vous voulez bien préparer ce temps de Sainte-Seine. Je voudrais qu'on puisse fermer les yeux quelques instants. Est-ce que nous voulons avoir cette vision de la foi? Est-ce que nous voulons avoir cette nouvelle vision dans nos cœurs? Que Dieu mette devant nos yeux les choses qui sont importantes. Que Dieu mette devant nos yeux ses avertissements, ses promesses. Que Dieu mette devant nos yeux ses récompenses aussi, afin que nous tenions bon, parce qu'il y a des temps difficiles, parce qu'il y a des tempêtes. Il y a des tempêtes, mais il y a un cap, il y a une direction, il y a un chemin, une carte de navigation que le Seigneur a dressée pour nous. Qui ce matin veut dire, Seigneur, je veux avoir cette foi. Je veux avoir cette foi comme ces héros de la foi l'ont eu dans leur temps. Cette foi qui soit propre à mon temps aussi, Seigneur. Qui ce matin veut dire, Seigneur, ouvre mon intelligence, ouvre mon cœur, ouvre, Seigneur, mes pensées pour que je discerne ce qui n'est pas visible dans ce monde, mais qui a tellement d'importance. Aide-moi, Seigneur, à renoncer, à refuser à ces choses qui semblent avoir de la valeur aux yeux des hommes, ces choses qui brillent, mais qui finalement ne servent à rien. Le Seigneur veut vous bénir, ses enfants. Le Seigneur veut encore déverser sa grâce dans chacune de nos vies. Seigneur éternel, je te prie pour que dans ce temps, alors que nous sommes devant toi dans ta présence, tu puisses, Seigneur, mettre dans nos cœurs une parole, une direction, une pensée, Seigneur, là, qui est forte par le Saint-Esprit pour montrer la voie que nous devons suivre. Tu vois, celui qui est dans la confusion, dans le trouble. Oh Seigneur, tu es le Dieu qui veut donner la paix dans le trouble. Tu es celui qui veut éclairer le chemin quand il y a des ténèbres. Tu es le Dieu, Seigneur, qui est fidèle aussi à tes promesses. Tu vois, peut-être une personne qui est malade, mais qui veut s'appuyer sur tes promesses, comme tu l'as fait pour cette dame, Seigneur, qui a été guérie totalement au travers de l'onction d'huile. Béni, guéri. Viens oindre les cœurs de ta sainte huile, Seigneur, ce matin. Viens oindre les cœurs de tous ceux qui sont dans une souffrance physique, morale ou spirituelle. Tu vois les cœurs aussi peut-être qui sont loin de toi. Ô Seigneur, donne-leur de ne pas s'endurcir, mais de s'ouvrir à la connaissance de la vérité et d'être sauvés par ta grâce. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur, parce que nous croyons que dans ce temps de Sainte-Seine aussi, alors que nous nous souvenons de ta mort, alors que nous nous souvenons de ton sacrifice, nous souvenons que tu as souffert la croix, nous réalisons aussi que tu nous attends dans ta présence pour se réjouir avec nous, Seigneur. Donne-nous la force de marcher jusqu'au bout, Éternel. Amen.